Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Muriel.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue dans Parlons-nous.
Merci beaucoup.
Vous avez une voix toute rieuse.
Ah d'accord, non mais ça va, enfin, je suis bien.
Bon, ben tant mieux alors. Mmh. Et de quoi voulez-vous me parler alors ce soir ?
Alors Caroline, je vous appelais parce que j'ai eu un long parcours derrière moi d'endométriose.
Ah oui.
Donc, en fait, une maladie...
Oui, vous pouvez l'expliquer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est.
Alors, l'expliquer, Caroline, je l'ai tellement vécu, je ne sais pas si je pourrais l'expliquer correctement.
Non,
on va dire... Voilà, en fait, l'endométriose, c'est-à-dire c'est l'endomètre qui ne fait pas son travail.
Muqueuse de l'utérus,
voilà,
hein, l'endomètre.
C'est ça. Voilà. En fait, quand il y a les règles, normalement, il faut appeler les chats un chat un chat. Quand il y a les règles, en fait, les règles tapissent l'utérus. Et donc, tout s'en va, en fait. Hein. Et avec l'endométriose, malheureusement, tout ne s'en va pas. Donc, ce qui fait que ça crée des fibromes. Et la muqueuse, justement, est endommagée.
Et ça crée beaucoup de... Oui, non, mais c'est ça. C'est... Ça crée beaucoup de douleurs, en fait. Hein. C'est souvent la douleur qui amène à consulter. Vous l'avez découvert... vous aviez quel âge quand vous avez découvert que vous souffriez?
D'accord. Alors, Caroline, j'ai 45 ans.
Oui.
Et donc, j'ai toujours eu des problèmes très jeunes, donc gynécologiques. Et à l'époque, parce qu'on peut bien dire à l'époque, parce que maintenant, ça c'est bien démocratisé, l'endométriose. Mais à l'époque, j'avais 18 ans. Et déjà, j'ai été réglée très tôt, parce qu'il paraît que c'est un des symptômes de l'endométriose. J'ai été réglée à l'âge de 10 ans et demi et j'avais des règles très abondantes.
Oh là là, ma pauvre, ça devait pas être facile. 10 ans et demi, c'est tellement jeune.
Ben oui,
vous étiez en primaire encore. 10 ans et demi, on est en primaire.
Ouais, je sais plus. Je crois que j'étais fin de primaire, début de collège ou quelque chose comme ça. Enfin.
Oui, enfin, ans. Oui, enfin, c'est 11 ans collège. Oui, donc.
Ouais, voilà, c'est ça. J'étais à cheval entre les deux. Et puis j'ai toujours eu des maux de ventre. Énormes maux de ventre.
Des règles douloureuses à ce moment-là, mais...
C'est ça, tout à fait. Donc après, j'ai eu des kystes, après j'ai eu des fibromes, j'ai fait plusieurs gynécologues, et jusqu'au moment où je suis tombée chez... Parce qu'après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on pense que vous êtes un peu dingue-dingue, parce que vous avez tout le temps mal et que vous ne voulez pas aller à l'école, ou que, en fait, vous faites un peu une comédie. Oui, tout à fait.
Ah, on pensait que vous faisiez un peu la comédie. C'est vos parents, les enseignants?
Non, enfin, les médecins, quoi, parce qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, la maladie n'était pas très connue, donc
ils
tâtonnaient.
C'est vrai, hein, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent, et de femmes connues, et elles contribuent beaucoup à faire avancer ce problème-là, dont sont atteintes beaucoup de femmes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais...
Et malheureusement, on ne sait pas pourquoi, ça augmente de plus en plus.
Ah bon?
Oui. Et oui, parce que bon, maintenant les médecins sont quand même formés à l'endométriose, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc c'est vrai que beaucoup de femmes ont souffert tout en sachant pas ce qu'elles avaient. Et puis après, donc j'ai été après plusieurs examens, des IRM, des scanners, etc. Je suis tombée avec une très bonne gynécologue, donc qui m'a dit, je crois que c'était parce que j'avais fait des opérations entre temps, on m'avait enlevé des kystes, gros kystes, Et je suis tombée avec une gynécologue qui était très bien, puis qui m'a dit, que j'ai de l'endométriose déjà à un stade qui était bien avancé.
Bien avancé. Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Et j'avais. Alors, attendez, Caroline, c'est moi les chiffres.
Mais approximativement,
voilà,
vous voyez.
C'était entre 20 et 23 ans, quelque chose comme ça.
D'accord, oui.
Donc, voilà, et donc on a pu me donner un traitement. Mais entre-temps, on m'avait dit aussi qu'il ne fallait pas que je m'attende à tomber enceinte naturellement.
Et oui, c'est ça, malheureusement, ça a des effets sur la fécondité.
C'est ça. Oui. Et là, Caroline, par contre, j'ai commencé à rentrer dans quelque chose, je ne sais pas, une espèce de combat. C'est-à-dire que j'ai l'impression maintenant, avec le recul, que je ne me suis pas autorisée en fait à faire rentrer un homme dans ma vie, de peur de le décevoir parce que je n'étais pas fertile en fait.
Ah bon ?
Oui, parce qu'après mon parcours,
Mais vous n'avez pas eu de petite amie, enfin, parce que j'imagine que c'est un coup de massue quand la gynéco vous annonce que ça sera très compliqué. d'avoir d'avoir un enfant.
Oui.
Mais à ce moment-là, ça n'empêche pas de, enfin, l'amour, d'être amoureuse et de...
Bah, en fait, après, j'ai papillonné, en fait.
Oui, quand même.
Oui, ouais. Oui, j'ai beaucoup papillonné. Non, de ce côté-là, bon, mais pas d'engagement, en fait. J'arrivais pas à trouver un homme pour m'engager, mais je pense que je le faisais inconsciemment, justement, de pas trouver.
D'accord.
En fait, ça m'arrangeait de papillonner, comme ça, je n'avais rien à, rien à prouver et puis à apporter, en fait, en quelque sorte. Parce que, après les années qui sont passées, je pense que je me suis un peu dénigrée, le fait de pas pouvoir être maman.
Ah bon?
Et oui. Oui, parce que l'endométriose, c'était beaucoup de souffrance. Je voulais pas montrer, en fait, ma souffrance à un homme parce que j'avais peur, en fait, bah, qu'il m'abandonne à force de, parce que bon, dans le mois, j'étais 5 jours complètement KO, en fait. J'étais simplement capable d'aller au travail. Mais après, une fois que je rentrais du travail, je m'écroulais sur le canapé et je dormais jusqu'au lendemain matin pour aller travailler, quoi. Et donc j'ai préféré, en fait, faire semblant. Enfin, oui, je pense, parce qu'après les années sont passées. Petit à petit, on m'a suggéré qu'il faudrait que je me fasse enlever l'utérus. Donc en fait, je vais un peu vite dans le temps, Caroline, parce que
j'imagine, enfin, voilà. Puisque oui, ça c'était. Et vous aviez environ quel âge quand on vous a parlé de cette ablation de l'utérus pour...
Vers les 35 ans, Caroline.
Oui.
Ouais.
Oui, donc parce là, ce qui crée. Quand on parle d'ablation de l'utérus, c'était avec les ovaires ou ce qui crée une ménopause? Non, vous n'avez pas.
Non.
Ça n'a pas créé donc de ménopause.
Voilà,
les ovaires fonctionnaient, hein. D'accord.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, Caroline, donc, entre-temps, mais on y reviendra après, donc effectivement, on m'a enlevé l'utérus donc, en 2019.
Enfin, c'est lourd hein, comme intervention quand on est une jeune femme de 35 ans, parce que là, du coup, vous savez que définitivement, vous ne pouviez pas avoir d'enfant.
C'est ça. Et Caroline, donc, c'était en 2019, donc j'avais 43 ans. Donc, vous voyez, j'avais fait plus de 20 ans de chemin avec l'endométriose.
Et oui, donc c'était vraiment le dernier recours chirurgical pour ne plus avoir à souffrir.
Exactement. Ouais. Mais en fait, d'où aussi un peu mon appel ce soir, c'est que il faut bien réfléchir avant de le faire, l'ablation de l'utérus, parce que si vous voulez, moi, en fait, j'ai misé énormément sur cette intervention. Bah, déjà, c'était dur, parce que là, je me suis dit, bah, cette fois-ci, même s'il y avait un petit espoir pour être enceinte, cet espoir donc était terminé.
Oui.
Et malheureusement, donc, je suis restée, donc, on m'a enlevé l'utérus, enfin, tout ça. Et les douleurs sont revenues au bout de 5 mois.
Ah bon?
Mais...
Et oui, mais parce que l'endométriose, c'est la muqueuse, peut se mettre ailleurs aussi. Elle se développe de façon considérable, elle peut aller tapisser d'autres
endroits, notamment le rectum,
exactement.
L'intestin et tout ce qui s'ensuit.
Donc les douleurs ont persisté.
Les douleurs ont persisté, donc me voilà reparti dans un traitement d'hormonothérapie.
Ah oui, d'accord. D'accord.
Voilà. Donc,
Et comment ça va, là, aujourd'hui?
Bah écoutez, Caroline, quoi vous dire? Bah, j'ai fait 20 ans de combat avec l'endométriose. Comme je vous disais, en fait, je voulais être forte. J'ai combattu, entre guillemets, la maladie. Ça, c'est pas, ça va. Mais en fait, oui, j'ai mis ma vie sentimentale de côté. J'ai mis ma vie sentimentale de côté. J'ai fait une thérapie. Et comme je disais à Caroline, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, enfin, on me l'a fait remarquer, que je buvais beaucoup.
D'accord.
En fait, je buvais, mais énormément. C'est-à-dire que, bon, la semaine encore, ça allait, mais le week-end, j'attendais le vendredi avec impatience.
Oui.
Pour boire.
Pour boire. Ou lors d'apéritifs, enfin, un peu festifs.
À l'époque.
Quand c'était possible, oui.
Voilà, quand c'était possible.
Voilà, quand à la sortie du boulot, on pouvait retrouver des collègues ou des amis dans des cafés.
Ça,
le bon
c'est
temps,
ça.
Quoi.
Voilà, une époque qu'on connaîtra peut-être bientôt.
J'espère.
Ben oui, j'espère aussi. Non, en fait, je buvais en toute occasion, hein, Caroline. Le vendredi soir, c'était en fait, ben, c'était tant mieux, c'était la fin de la semaine. Donc voilà, je buvais une bouteille de vin blanc. Oui. J'allais me coucher, je pensais à plus à rien. Oui. J'avais par exemple un rendez-vous sentimental, enfin si on peut dire ça. Voilà. Mmh. Et ben en fait, je buvais un verre avant d'y aller. Quand je partais de chez moi, je buvais un verre. Et puis bon, je me disais comme ça me donne du courage. Et mais en fait, je me rends compte que la personne en face de moi, maintenant que en fait j'ai eu de la chance, j'ai arrêté de boire, je me dis que la personne voyait très bien que j'avais bu, parce que quand on boit pas, ça se sent, on sent l'alcool.
Bah, ça dépend. Si vous n'aviez pris qu'un verre, mais ça allait peut-être au-delà, c'est ça.
Ouais, voilà, en fait, c'était un verre ou deux, c'est puis ça. C'était du whisky ou de la vodka, quoi. Donc,
Et c'était pour vous donner du courage, tellement vous aviez peur, vous appréhendiez cette rencontre.
Ben, en fait, j'ai jamais su, Caroline, parce que je pense que je me demande si je ne me sabordais pas toute seule, volontairement.
Si. Mais vous étiez mal. T'es certainement, assez déprimée, au fond. Vous
Oui, je pense que j'étais.
C'est dur aussi, parce qu'il y a des renoncements, pour ne pas dire des deuils à faire. Déjà, il y a la douleur qui est là, quand même.
En permanence,
vous vivez avec la douleur, et ça touche la sphère gynécologique, la sphère intime, donc vous en parlez bien aussi des répercussions que cela a dans votre vie amoureuse et dans votre vie sexuelle, parce que parfois la douleur est présente lors des rapports sexuels aussi.
Oui, j'allais justement en venir. C'est-à-dire que au départ, quand on m'a diagnostiqué, donc j'étais jeune, donc c'est-à-dire, vous savez, quand la jeunesse, c'est vrai, c'est ce qui est bien, on est insouciant un peu, donc c'était pas grave. Je me disais, bon, de toute façon, il me dit ça, mais voilà, donc j'avais des rapports, j'avais des rapports sexuels. Fallait pas que j'ai des rapports sexuels très fréquents. En fait, c'était ça. Si je bois une fois par semaine, voilà. Mais
ça a un impact quand même important sur la vie, c'est un retentissement considérable quand même, sur quand on débute sa vie amoureuse comme ça, et sexuelle.
Tout à fait. Et ce qui fait que, je pense que je me suis mise de côté. J'ai, entre-temps, j'avais fait quand même une FIV. Donc, je m'étais dit, donc une fécondation in vitro.
Alors, avec un don de sperme, alors avec,
c'est ça. Parce qu'en fait, jusqu'au
Pas en France, alors, si vous étiez...
Non, pas en France, Caroline, en Espagne.
D'accord. Oui, et vous aviez ce projet de devenir maman. Enfin, il y avait quand même cet espoir.
Oui, voilà, quand même cet espoir. Et en me disant, parce que vu que je voulais pas être rejetée, je voulais pas être abandonnée par un homme par rapport à mes problèmes. Alors pourquoi je me suis mise en tête?
Oui, pourquoi vous êtes mise en tête? Vous l'avez abordé, j'imagine, dans votre thérapie, ça.
Oui, je l'ai abordé en fait.
Puisque l'alcool, le problème où vous êtes rendu compte au fond que l'alcool prenait une place là aussi trop importante, venait combler quelque chose.
Tout à fait.
Donc j'imagine que ce rapport aussi à votre corps, à votre féminité, rapport aux hommes, comme si, au fond, le fait d'être empêchée au niveau de la maternité ne faisait pas de vous une femme aussi, vous voyez ?
Ben oui, et puis, vous savez, Caroline, enfin après, je sais que tous les hommes ne sont pas pareils, heureusement, mais je peux comprendre un homme qui désire avoir... un enfant avec sa femme qu'il aime et qu'il ne peut pas avoir, puisse la laisser. Ça, je peux l'entendre. Je peux le concevoir, et après, c'est humain.
Oui, mais il y a des hommes aussi qui, soit parce qu'ils sont déjà pères, soit parce qu'ils n'en ont pas le désir, pourraient très bien vivre une histoire d'amour avec vous. Ou il y a l'adoption aussi. Il y a la possibilité de l'adoption.
Oui, tout à fait, Caroline. On va dire que... ça a une fin heureuse, parce que j'avais fait les démarches d'adoption. Ça a mis beaucoup de temps, en fait.
Ah oui, parallèlement à la FIV, en fait, c'est ça, vous aviez, d'accord. Oui, d'accord.
Parce que le médecin me l'a conseillé très tôt, en fait.
Il a raison, c'est tellement long, la procédure d'adoption.
C'est ça, mais l'adoption, après, on ne peut pas commencer. Enfin, je crois que c'était à partir de 35 ans. Donc, dès que j'ai eu mes 35 ans, j'ai commencé à faire la procédure, à avoir mes agréments. Et là, je suis revenue avec une petite fille.
C'est pas vrai. Quand? Il y a combien de temps?
En février 2020. Donc là, on va fêter nos 1 an.
En février 2020.
Oui.
Alors, et elle a quel âge, cette petite ?
Elle va avoir 7 ans en juin, donc elle a 6 ans et demi.
Elle a 6 ans et demi, d'accord. Ouais. D'accord, ça c'est formidable alors. Et elle est, vous êtes, vous l'avez rencontrée où ? Elle vient d'un pays...
De l'Afrique de l'Ouest.
Elle vient de l'Afrique de l'Ouest, d'accord.
Oui, je l'ai rencontrée la première fois, alors c'est pour vous dire, hein, pour le cheminement, je l'ai rencontrée la première fois en juin 2015.
Oh là là, elle était petite, 5 ans, voilà. Vous avez entendu ? Quelle tristesse.
Je l'ai rencontrée, elle avait un an.
Oh là là, quelle tristesse. Bon, heureusement, comme vous dites, la fin est heureuse, vous êtes réunis aujourd'hui. Mais 5 ans dans la vie d'un enfant, c'est tellement long.
Ben oui.
Et pour elle et pour vous, et pourquoi ça a pris 5 ans entre le moment où vous l'avez rencontrée et le moment où vous avez pu vraiment l'accueillir dans votre vie ?
Ben oui, parce que l'adoption, c'est très long.
Oh là là, que de temps perdu.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis allée tous les ans la voir, toutes les années.
Quand vous repartiez, ça devait vous déchirer le cœur quand même.
Ben, c'était vrai. C'était difficile.
Quelle
difficile.
C'est vraiment, vous parliez de ce combat hein, contre l'endométriose, mais ce combat aussi pour devenir maman. Oui. Il faut vraiment, vous voyez, c'est là où on dit, il y a plusieurs façons hein, de devenir parent. Et là, quand on voit, parfois, il y a des gens, d'ailleurs, on dit tomber enceinte, ça arrive comme ça, c'est pas... Vous, c'est cette volonté farouche qu'il a fallu de tenir, de l'attendre, c'est une gestation de 5 ans.
Ouais. Hein, Caroline, c'était très long, même j'y croyais plus. Hein.
Bah oui.
La quatrième année, j'ai dit bon, ben qu'est-ce que je fais ? C'était de l'investissement dans plein de domaines et puis surtout un investissement affectif. Et je savais plus. Donc après, j'y suis allée la dernière année. Après, j'ai dit bon, ben soit ça passe ou ça casse, quoi.
Oui.
Et c'est vrai que je me voyais mal. Parce qu'en fait, je me voyais mal faire ma vie sans enfant, sans être maman.
Oui, oui, je comprends.
Voilà. Et bon, après, c'est vrai que j'ai remporté ce combat-là, mais qui n'a pas été sans mal, parce que j'ai mis ma vie de côté, ma vie sentimentale, ma vie de femme, et maintenant j'aimerais bien que ça change, que je puisse rencontrer un homme bien, un homme attentionné, qui prenne soin de moi, qu'en fait, tout ce combat, je l'ai passé toute seule, en fait. Hein.
Oui. Votre famille vous a soutenue, est à vos côtés?
Oui, Caroline soutenue, mais après, c'était pas, si vous voulez, c'est vrai que c'était un projet, c'était mon projet, mais soutenue, mais je pense que quelque part, même eux, à la fin, ils y croyaient plus, parce qu'ils disaient, ouais, elle s'est peut-être encore mise dans une voie de garage.
Mais quand on voit, Muriel, franchement, la détermination, le courage que vous avez eu, la pugnacité pour finalement arriver à devenir maman, franchement, si vous en mettiez le quart dans votre projet de rencontrer un homme, il n'y a pas de raison que ça se réalise. Pas, hein, franchement, au vu, parce que quand vous voulez quelque chose... Vous y arrivez. Alors oui, après, je dis ça, je sais bien que derrière, il y a des choses plus inconscientes, certainement. Mais peut-être, au fond, aujourd'hui que vous êtes apaisée de ce côté-là, que vous avez votre petite fille, enfin, à vos côtés, dont vous pouvez prendre soin. Vous allez fêter cette première année, comme ça, ensemble, là, en février prochain.
Oui.
Peut-être que maintenant que ce désir-là est... et apaisé, comblé, vous allez, comme vous le dites, pouvoir vous sentir plus forte, plus sereine aussi dans vous, dans votre féminité.
J'espère.
Parce que là, c'est-à-dire rencontrer aujourd'hui, vous avez 45 ans, vous pouvez très bien rencontrer un homme qui lui-même est peut-être des pères divorcés, séparés. Et avec qui vous pourriez former une famille recomposée ?
Ah oui, bien sûr. Après, moi, c'est plus que
ça se trouve, vous allez vous retrouver à la tête d'une grande famille. Qui sait ? c'est possible.
Oui.
À l'âge que vous avez, vous pouvez très bien rencontrer un père divorcé avec un ou plusieurs enfants.
Oui, et puis je ne suis pas du tout contre, hein, bien au contraire.
J'imagine. Alors déjà, il fallait cette première année vous consacrer et continuer, bien sûr, à votre pépette. Elle va bien ?
Elle va bien, les débuts ont été difficiles.
Et un peu grand, oui, bien sûr, c'est un tel changement. C'est un tel changement pour elle, bien sûr.
Et puis après, on n'en parle pas, mais c'était un changement pour moi aussi.
Aussi, parce
que,
oui.
Parce que je l'avais idéalisée, cette petite, je l'avais attendue,
oui,
je l'avais désirée. Et après, la réalité n'est pas la même.
Oui, oui. Et oui, il y a l'enfant dont on rêve, l'enfant idéal, que les femmes qui attendent un enfant savent, elles ont ce bébé idéal, cet enfant maintenant en tête. Et puis, il y a la réalité. Alors, en général, ça s'ajuste bien. Mais dans l'adoption, et quand il y a un enfant qui est déjà un petit peu grand, entre guillemets, parce qu'il est encore petit, évidemment, mais oui, mais il y a un ajustement. Et il y a une adoption qui doit se faire des deux côtés, finalement. Aussi.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. On arrive à, comment dire, on apprend à se connaître, en fait.
Oui, c'est ça.
Tous les jours.
Mais oui, vous l'avez tellement attendu, cette petite fille.
Mais oui.
C'est bien qu'elle soit dans votre vie. Vous devez lui en parler et puis elle le comprendra d'autant plus tard à quel point vous êtes battue pour qu'elle soit dans votre vie et pour que vous deveniez sa maman. Il y a Evelyne de Lisieux qui est très émue elle aussi en vous écoutant parce qu'elle dit quel courage. Elle ajoute, je suis tellement heureuse que vous soyez enfin devenue maman d'une petite princesse. Un grand bravo à vous, plein de belles choses à vous deux. Et puis, une belle histoire d'amour, alors, maintenant, c'est ça.
Ben oui, Caroline.
Maintenant,
donc
c'est
après,
ce qui est. Ça, franchement, tout est possible. Vu votre énergie et votre volonté, tout reste possible. Je vous embrasse bien fort, Muriel.
D'accord, ben moi aussi, Caroline.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir, bonne soirée.